This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio 10.
France Inter. Le
18-20 ce soir en Roumanie et en Suisse, ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'International d'Olivier Poujade. La revue de presse des correspondants d'Inter passe cette semaine par Berlin et Londres avec Cyril Sauvageau et Antoine Gignot. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur un parc à thème chrétien qui ouvre en Chine. Mais tout de suite, on parle de la diplomatie culturelle française.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
On dit aujourd'hui diplomatie culturelle et d'influence. Pour être tout à fait précis, et les mots ont un sens. La culture n'est plus un supplément d'âme, mais un secteur crucial pour la France et accessoirement ses exportations. Ne parlez donc plus de rayonnement, mais d'influence. Bonsoir Bruno Fouché.
Bonsoir Nicolas Nouveau.
Vous êtes président exécutif de l'Institut français. En quelques mots pour nos auditeurs, mission de l'Institut, nombre d'antennes à travers le monde, feuille de route.
Alors, l'Institut français est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères. Il y a 97 instituts français dans le monde qui constituent une partie seulement du réseau culturel français, puisqu'il faudrait y adjoindre les quelques 800 alliances françaises et les quelques 160 services de coopération et d'action culturelle. Mmh. Alors, l'Institut français a pour mission, pour le faire simple, d'accompagner les artistes, les œuvres, les penseurs dans tous les lieux à travers de la planète où ils peuvent rayonner, où ils peuvent avoir de l'influence. Et ça, c'est son volet export, en quelque sorte. Il y a également un volet import, qui est également très reconnu. Nous faisons vivre en France les cultures étrangères au travers des saisons culturelles. Par exemple, nous venons de lancer la saison France-Colombie, qui a succédé à la saison France, à l'année, pardon, France-Corée. Et c'est le mélange de ces deux, de ce volet export et de ce volet import, qui fait que nous faisons dialoguer les cultures.
Vous êtes aux côtés des ambassades, vous êtes les opérateurs de la culture à l'étranger, en France aussi, vous l'avez dit, mais à l'étranger.
C'est exactement le mot. Nous sommes l'opérateur de ces deux ministères et nous travaillons avec le réseau tous les jours. Je veux dire que nous alimentons de nos idées, de nos suggestions et qui constituent notre tambour, notre chambre d'écho à l'étranger.
Alors, comment décrire la philosophie de la diplomatie culturelle française? J'ai dit qu'on ne parlait plus vraiment de rayonnement de la France à l'étranger. Le mot avait été rangé dans une armoire, à archives. Aujourd'hui, donc, comment décrire sur le plan conceptuel l'action culturelle de la France à l'étranger?
Écoutez, nous sommes dans un monde complexe, c'est-à-dire dans lequel, quand on ouvre le journal le matin, on se rend bien compte qu'il y a, c'est un monde dangereux, je veux dire, dans lequel la culture, le dialogue est nécessaire. Nous sommes dans un monde dans lequel on parle à nouveau de déglobalisation, de démondialisation, de construire des murs, de créer des barrières. Et nous avons un ADN qui nous pousse à, au contraire, à construire des ponts entre les cultures, à dialoguer. Si vous prenez, par exemple, cette magnifique initiative que nous avons montée en janvier, qui s'appelle la Nuit des Idées, je veux dire, nous avons organisé sur les deux hémisphères environ 100 nuits des idées très différentes sur un thème commun qui est le monde commun. Il y a eu au total 200 000 spectateurs qui ont pris part à cet événement. Et c'est au travers d'événements de cette catégorie que nous promouvons notre conception, notre vision du monde et que nous favorisons le dialogue entre les peuples.
Quand on parle de diplomatie culturelle et d'influence, est-ce que vous pouvez définir le périmètre de cette influence? Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Écoutez, nous avons une diplomatie d'influence dans la mesure où la France, à l'étranger, se définit peut-être le mieux au travers de sa culture. Il y a naturellement la politique. Il y a aussi l'économie, mais à l'international, nous sommes connus précisément au travers de nos œuvres, de nos créateurs, de nos artistes. Et nous, à l'Institut français, nous avons pour vocation particulière de travailler sur les nouvelles tendances, d'identifier ce que sont les nouveaux secteurs de l'innovation, les nouvelles formes de création. L'art aujourd'hui est un art d'hybridation où il y a un dialogue entre les différentes disciplines et nous cherchons à comprendre et à identifier ces nouvelles tendances pour les promouvoir à l'étranger, parce qu'on nous les demande à l'étranger.
Mais la culture est une politique de puissance pour la France à l'étranger.
Écoutez, il y a un débat sur cette question, et c'est vrai que très souvent on parle de soft power. Mmh. Dans soft power, le mot le plus important, c'est power. Et c'est pas la façon dont nous concevons les choses. Nous souhaitons faire entendre notre voix dans le dialogue international. Nous pensons que nous avons un message à faire passer, que nous ne sommes pas les seuls à avoir un message à faire passer, mais nous voulons, au travers de nos idées, au travers de nos créateurs, au travers de notre langue aussi. Je rappelle que le français est la 5e langue la plus parlée de la planète, qu'elle est la 2e langue la plus enseignée de la planète et qu'il est important de la maintenir en vie.
Mmh. Le soft power, pour le dire en quelques mots, ça dépasse de très très loin les cadres de l'État. Quand on l'applique aux États-Unis, par exemple, ça concerne Hollywood, la vie numérique, les romans, même le mode de vie en tant que tel, hein, qui sont des éléments de diffusion non conventionnelle, on va dire, de la puissance américaine. C'est bien cela.
C'est bien cela. Nous travaillons dans toutes les disciplines, mais vous savez, le monde est très ouvert parce que tout le monde peut parler avec tout le monde au travers des réseaux sociaux, mais en même temps, cette diffusion ne se fait pas simplement. Je veux dire, si vous prenez par exemple la reconnaissance internationale de la littérature française, je veux dire, il faut l'organiser. Je veux dire, il faut organiser les sessions de droit, il faut surtout travailler sur les traducteurs. Nous avons un collège international des traducteurs littéraires que nous formons. Il faut assurer la formation des nouvelles générations de traducteurs. Actuellement, nous vendons beaucoup de droit en Chine, mais nous devons continuer de former ce que seront les traducteurs de demain pour que notre littérature, pour que notre mode de pensée puisse continuer d'être lu en Chine ou aux États-Unis.
Elle s'exporte bien, la littérature française, Bruno Fouché ?
Elle s'exporte bien, mais pas forcément dans les pays auxquels on pense. C'est-à-dire, actuellement, la première langue dans laquelle nous cédons le plus de droits, c'est le chinois. Ensuite, nous avons des langues européennes comme l'italien, l'espagnol, puis l'allemand. L'anglais ne vient qu'en 5e position. Et justement, c'est une des problèmes que nous avons. Par exemple, si vous prenez aux États-Unis, les humanités, je veux dire, les sciences sociales sont moins lues aujourd'hui. Enfin, les penseurs français en sciences sociales sont moins lues qu'ils ne l'étaient. Mmh. Et nous sommes en train de former, nous allons recruter de jeunes philosophes américains qui vont venir se former à la traduction des œuvres françaises en anglais.
Mmh. Qu'en est-il du nerf de la guerre ? Sur quel budget travaillez-vous à l'Institut français ?
Nous travaillons principalement sur des subventions que nous recevons de nos deux tutelles, les affaires étrangères d'une part, culture d'autre part, et pour ce qui concerne par exemple les saisons croisées, nous faisons appel au mécénat d'entreprise.
Voilà, c'est quasiment obligatoire aujourd'hui d'être sur un modèle de financement public-privé.
Oui, absolument, parce que nous connaissons tous les difficultés budgétaires. Je veux dire, l'Institut français a vu ses crédits réduits dans la tendance récente, et il faut chercher à compenser en associant à notre mission des acteurs économiques qui sont intéressés par cette mission.
Vous avez été ambassadeur en Iran, ambassadeur de France en Iran. Quelle était l'action culturelle de la France là-bas ?
L'action culturelle de la France en Iran était surtout consacré à la promotion du français. En Iran, nous avions un centre de langue qui marchait très bien, avec plus d'un millier d'apprenants. Et il y avait également dans ce pays 19 départements universitaires avec lesquels nous avions des liens très, très constructifs.
Des échanges universitaires,
oui,
beaucoup ?
Oui, absolument. Et j'ai fait venir aussi en Iran des universités, des grandes écoles, pour renouer avec ce pays après la solution de l'affaire nucléaire.
Par rapport au soft power dont nous parlions tout à l'heure et donc de cette diplomatie culturelle informelle qu'on peut voir dans sa forme la plus puissante aux États-Unis, est-ce que la France n'a pas un retard conceptuel ? Est-ce qu'elle n'est pas appuyée ou est-ce qu'elle n'a pas longtemps été appuyée sur un concept dépassé, on va dire, de la culture ?
Non, je ne crois pas. La diplomatie d'influence française a une histoire qui est presque séculaire. Elle a été lancée après la Première Guerre mondiale par un petit bureau aux affaires étrangères qui était dirigé d'ailleurs par Jean Giraudoux. Et puis, elle a grossi au travers de différentes associations qui ont rassemblé dans leur organigramme l'ensemble des services qui s'occupaient de diplomatie d'influence. Aujourd'hui, elle a une forme nouvelle que l'Institut français, je veux dire, et elle a besoin de moyens pour continuer à rayonner.
Est-ce qu'il y a une claire conscience que la culture est aussi un secteur économique absolument colossal pour des pays comme les nôtres, on va dire ?
Vous avez mais tout à
capitalisme
fait.
Immatériel, c'est un capitalisme d'avenir pour la France.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison, parce que les industries culturelles et créatives pèsent presque 85 milliards d'euros. Elles contiennent à peu près 1 300 000 emplois qui ne sont pas exportables. Un secteur comme l'édition, c'est 65 000 emplois. Et elles ont absolument besoin de l'international pour continuer à vivre et à se développer.
Allez, une dernière question, Bruno Fouché. Vous nous avez parlé, parce que c'est la dernière grande opération en date de la Nuit des Idées, dont France Culture s'est fait l'écho, France Inter, pardon, s'est fait l'écho, évidemment. Si je vous demandais de citer un ou deux instituts culturels français en ce moment, des opérations qui, sur le terrain, vous semblent particulièrement remarquables, vous penseriez à quoi ?
Oh ben d'abord, je remercierais tous les instituts français qui
ont
participé.
Ils ont fait du sérieux boulot. Hein.
À cette Nuit des Idées, puisque nous avions à peu près une centaine de nuits à l'étranger, et je dirais, et les instituts français ont été le fer de lance d'une grande partie de cet événement mondial.
Mais il y a des pays où que vous regardez plus particulièrement en raison de leur situation politique, démocratique.
Absolument. Nous avons dans notre stratégie 39 pays prioritaires. Je veux dire, ce sont des pays prescripteurs, ce sont des pays émergents, néo-émergents, ce sont des pays qui sont la façade nord de l'Afrique, et les pays francophones de l'Afrique, ce sont des pays que nous suivons particulièrement.
Merci Bruno Fouché d'être passé au micro de France Inter. Longue vie à l'Institut français et à la politique culturelle de notre pays. Vous êtes le président exécutif de l'Institut français. Merci encore.
Merci.
Dans quelques instants, la revue de presse internationale, elle passera cette semaine par Londres et Berlin. Excitements sur Inter, 18h31.
Del día, 9 minutos en
Brasil. Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Bonsoir Marc Crépin.
Rome, Mathilde Imbertie, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous.
La revue de presse des correspondants d'Inter avant de filer à Londres, rejoindre Antoine Gignot, direction Berlin. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Son visage, Cyril, est à la une de toute la presse allemande ces jours-ci. Martin Schulz, qui espère chasser Angela Merkel de la chancellerie aux prochaines élections. Et les sociodémocrates, Cyril, commencent à y croire.
Et l'affaire semblait pourtant pliée d'avance, hein, malgré la crise des réfugiés, malgré la montée de la droite populiste. Rien ne semblait pouvoir empêcher la chancelière de rempiler pour un quatrième mandat. Merkel était alternative-los, sans alternative, comme l'écrit le site Politico. Mais quelque chose est en train de frémir. Depuis la désignation de Martin Schulz fin janvier comme candidat du SPD, plus rien n'est certain. Le dernier sondage du quotidien Bild place les sociodémocrates devant la CDU de Merkel pour la première fois depuis plus de 10 ans. Alors ce n'est qu'un sondage, mais c'est un coup de tonnerre dans le monde politique. L'Allemagne est-elle fatiguée de Merkel, titrait cette semaine la Bild Zeitung en s'interrogeant. Les électeurs ont peut-être besoin d'un nouveau visage. Ce nouveau visage, c'est Martin Schulz qui l'incarne aujourd'hui. Le président sortant du Parlement européen a pour lui son franc parler, sa volonté de revenir aux fondamentaux du Parti social-démocrate avec pour thème de campagne la justice sociale et surtout un avantage, celui de ne pas avoir directement gouverné en coalition avec Angela Merkel pendant 4 ans. La campagne sera longue, il reste 8 mois avant l'élection, mais c'est possible, écrit l'éditorialiste du Spiegel, Jakob Augstein, qui souligne l'échec d'Angela Merkel, coupable d'avoir profondément divisé le pays et de n'avoir pas su relancer l'Europe. Schulz, conclut l'éditorialiste, peut devenir un nouveau chancelier de l'unité, allusion au surnom d'Helmut Kohl au moment de la réunification.
Autre sujet, Cyril, ce nombre record de cambriolages l'an passé en Allemagne, c'est le sujet précisément d'un long format multimédia sur le site du quotidien Handelsblatt.
Un cambriolage toutes les 3 minutes. L'Allemagne est devenue le paradis des voleurs, selon le Handelsblatt, qui a reconstitué, dans ce long format très graphique, le périple d'une bande criminelle venue des Balkans. 3 hommes, coupables à eux seuls d'au moins 81 cambriolages en un an dans l'ouest de l'Allemagne. 81 cambriolages épinglés façon tableau de chasse sur une carte interactive de l'Allemagne avec le décompte total du butin. 25 ordinateurs, 57 montres, des centaines de bijoux, 32 000 euros en argent liquide, etc. La cellule enquête du journal a donc retracé le parcours des 3 hommes depuis leur arrivée en Allemagne en 2013 avec de faux papiers. Les premiers cambriolages, plusieurs victimes racontent les dégâts dans des petites vidéos associées. Viennent ensuite les ennuis avec la police qui les prend en chasse une première fois, mais qui perd leurs traces. Le business continue, la cavale prendra fin au bout d'un an en Finlande où les 3 hommes ont trouvé refuge. L'histoire se termine au tribunal avec 9 ans de prison à la clé. Une histoire presque banale, direz-vous, il y en a beaucoup d'autres, mais ce récit extrêmement détaillé qui mélange texte, dessin, vidéo, se suit comme un vrai polar. Si vous êtes germanophone, c'est donc à lire et c'est en accès libre sur le site du Handelsblatt.
Allez, Jean-Paul Gaultier pour finir, il est aux manettes d'un journal allemand, c'est à lire ce week-end, Cyril, dans le Welt am Sonntag.
Oui, le styliste français, rédacteur en chef d'Un Jour. Alors, on ne sait pas encore à quoi ressemblera ce numéro spécial prévu dimanche, mais le journal Die Welt a commencé très fort le teasing avec un appel de une dans son édition d'aujourd'hui et des photos parues sur Twitter. On y voit Jean-Paul Gaultier devant le chemin de fer du journal. Gaultier, très en vue en ce moment à Berlin, puisqu'il a conçu les 500 costumes d'un spectacle flamboyant, The One, qui triomphe depuis près d'un an au Friedrichpalast de Berlin et qui a déjà battu tous les records de fréquentation.
Cyril Sauvageau à Berlin, merci. Et direction maintenant Londres. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir Nicolas.
Avec du Brexit, Antoine, à la une, les députés ont validé le texte sur l'activation de l'article 50 hier soir. Le Royaume-Uni continue donc son chemin vers la sortie de l'Union européenne, même si pour certains, Antoine, le cœur n'y est pas.
Ce sont les travaillistes qui le disent dans le Guardian. Oui, nous avons voté hier pour donner à la Première Ministre le droit de lancer la procédure de divorce. Oui, cette fois, on va quitter l'Union Européenne. Mais que pouvait-on faire, interroge West Streeting, député de gauche. Si nous avions refusé, dit-il, nous aurions probablement déclenché des émeutes, une crise institutionnelle. Il aurait fallu faire de nouvelles élections. Alors que reste-t-il au parti de Jeremy Corbyn, totalement divisé, exsangue? Peut-être l'opportunité de reconstruire la société l'autorité britannique, poursuit West Streeting. Les travaillistes, dit-il, ont construit l'État-providence après la guerre. Nous devons, nous, profiter du Brexit pour réinventer la démocratie sociale.
Et dans le même temps, le Financial Times sort les gros dossiers techniques du placard.
Eh oui, au boulot maintenant, c'est Martin Wolf dans le New York Times qui fait l'état des lieux avant les négociations avec Bruxelles. Il y a, dit-il, 5 défis, 5 problèmes à résoudre. D'abord, le manque de temps. Les négociations sont censées durer 2 ans, mais les entreprises voudront avoir une idée de ce qui va se passer avant la fin, avant la date butoir. Elles vont donc mettre la pression sur le gouvernement. Ça ne laisse qu'un peu plus d'un an pour discuter, dit-il. En face, l'Europe, elle, n'a pas besoin de se presser. Personne n'est en parallèle d'accord sur la méthode et c'est un autre problème. Bruxelles veut négocier les termes du divorce avant d'entamer la discussion sur la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le gouvernement britannique, lui, veut une négociation globale. Et puis, il y a aussi la question de l'argent. Les militants pro-Brexit, pendant la campagne, avaient expliqué aux Britanniques que la sortie de l'Union européenne permettrait d'économiser près de 370 millions d'euros par semaine. Ça aurait permis de financer le NHS, le système de santé. En fait, le Royaume-Uni va devoir payer pour continuer de financer les projets dans lesquels il est engagé. L'enveloppe reste à calculer, mais suivant une formule mathématique, elle frôle désormais les 60 milliards d'euros. Et puis, 5e difficulté, c'est la complexité de cette négociation entre le financement de la recherche scientifique, les nouveaux accords atomiques, les nouvelles règles douanières potentiellement incompatibles avec l'OMC. Il y a au total 700 dossiers à traiter en moins de 2 ans.
Et une autre difficulté, Antoine, il faut savoir aussi avec qui discuter.
Et c'est tout aussi important. Pour preuve, ce petit papier dans le Financial Times qui s'intéresse à Ted Malloch. Il est politologue, c'est lui qui est pressenti pour être l'ambassadeur de Donald Trump auprès de l'Union européenne ou l'ambassadeur américain en Grande-Bretagne. Pour l'instant, on ne sait pas. CV en tout cas impressionnant, il le raconte dans son autobiographie. Il a décroché son doctorat en moins de 3 ans. Il est l'auteur d'un documentaire sélectionné pour les Grammy Awards. Il a été anobli par la reine, décrit comme un génie par Margaret Thatcher. Sauf que tout ceci est faux, affirme le quotidien britannique qui a mené l'enquête. En revanche, c'est une certitude, l'homme est un proche de Donald Trump, le président des États-Unis, qui fait lui aussi l'objet de la blague du jour dans le Guardian. Je ne résiste pas à l'envie de vous la faire partager. Trump est un personnage si odieux que son karma pourrait l'obliger à se réincarner en lui-même.
C'est pas mal, merci beaucoup Antoine Gignot en direct de Londres.
24 horas, 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
On file en Roumanie. Une semaine de mobilisation, Olivier.
La pilule ne passe pas, Nicolas. De nouvelles manifestations sont prévues ce soir. Sous la neige, dans le froid, les Roumains ne lâchent pas prise. Et dans le viseur de cette fronde, le gouvernement qui a cherché à faire passer en force la semaine dernière un décret pour assouplir les lois anticorruption et permettre à certains hommes politiques d'échapper à la prison. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir Olivier.
Vous êtes à Bucarest où la crise s'enlise. Le fameux décret qui a précipité 500 000 de personnes dans la rue le week-end dernier a été retiré. Le ministre de la Justice à l'origine de ce décret a démissionné aujourd'hui, mais cela pourrait ne pas suffire. Les manifestants veulent le départ de tout le gouvernement.
Oui, c'est qu'ils ont le sentiment d'avoir été pris pour des imbéciles, les Roumains, par ce gouvernement arrivé au pouvoir en janvier, après une campagne axée sur l'augmentation des aides sociales, l'emploi, et hop, quelques jours à peine après son entrée en fonction, en pleine nuit, presque en catimini, voilà que tombe ce décret d'urgence, totalement hallucinant sur le fond, puisqu'il efface d'un coup des dizaines d'affaires de corruption très graves. Clotilde Armand-Morianu est membre de l'Union pour sauver la Roumanie, un parti anti-corruption. Pour elle, ce bras de fer est le champ du cygne d'une classe politique dépassé.
La Roumanie a beaucoup changé. C'est un pays avec un taux de croissance le plus important d'Europe, avec une classe moyenne qui s'est développée, qui connaît l'Europe, qui voyage, qui est allé travailler à l'étranger, à des postes qualifiés. Ce sont des gens qui ont des exigences en termes de démocratie, de transparence. La population, aujourd'hui, son standard, il est que c'est fini. Il y a quelques années, vous n'auriez pas eu cela parce que la corruption était pratiquement acceptée socialement. Elle ne l'est plus aujourd'hui.
Et si elle ne l'est plus, c'est grâce notamment à un programme de lutte contre la corruption lancé il y a 11 ans sous l'égide de l'Union européenne pour aider le pays à assainir ses pratiques.
Oui, ce programme, Olivier, il est très impressionnant. Des milliers de hauts fonctionnaires, d'élus, de policiers, même des ministres qui ont été envoyés derrière les barreaux. La magistrate qui le dirige est une véritable rockstar et bien sûr, elle est détestée par les politiciens. Et puis il y en a un autre dont les politiciens ont peur, c'est cet homme qui nous a donné rendez-vous dans un café de Bucarest, Mihai Politsanu, un citoyen qui a porté plainte directement contre le Premier ministre pour corruption, une plainte qui est instruite en ce moment.
On a ce sentiment que la Roumanie est à la croisée des chemins. Soit elle retourne en arrière au temps de la corruption et de l'oligarchie, soit elle prend la voie de la transparence, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Ici, les gens ont une mémoire historique très forte. Ils savent ce que veut dire le manque de liberté et la corruption. Vous savez, ça n'est pas si loin, la révolution de 89. On vivait alors sans liberté civique, dans une société très pauvre et où tout était dominé par la corruption.
Mihai Politsanu a créé un collectif qui publie sur Internet un trombinoscope des ripoux qui tracent les casseroles des candidats aux élections. Certains partis ont osé présenter jusqu'à 70% de candidats mouillés dans des affaires de corruption.
D'où l'urgence évidemment pour eux de faire passer cette loi d'amnistie.
Oui, mais alors comme ça n'a pas fonctionné, les Roumains ont peur désormais que la majorité parlementaire cherche à modifier la constitution. D'où cette crainte pour la démocratie et cette détermination à ne pas céder et à finir comme disent certains. Le travail de démocratisation lancé avec la Révolution il y a 27 ans.
Reportage signé Claude Guibal et Clémence Bonfils pour les moyens techniques.
Allez Olivier, un détour par la Suisse désormais, Kstadt peut-être ?
Non, plutôt Saint-Moritz, voyez-vous Nicolas. D'une part parce que les championnats du monde de ski alpin y ont débuté mardi dernier. Ensuite, parce que ce village du canton des Grisons ne ressemble, paraît-il, à aucune autre station de sport d'hiver. Bonsoir Franck Ballanger.
Bonsoir Olivier.
Les connaisseurs comparent souvent Saint-Moritz à Monaco, mais avec la neige en plus, Franck.
Lorsque vous arrivez de Zurich pendant un long moment, il n'y a rien. Le paysage est aride, en été couvert de neige en hiver, mais toujours désertique. Mais une fois passé le col du Julier, tout change. La vallée de l'Engadine s'offre à vous, avec Saint-Moritz et son lac. Un paysage somptueux, bucolique et romantique. Mais contre toute attente, ce n'est pas la petite Heidi qui arpente les rues du village. Plutôt sa grand-mère qui aurait réussi, un manteau de fourrure sur le dos, slalomant lentement entre les voitures de luxe, parce que Saint-Moritz, c'est d'abord cela, un gros bourg de 5000 habitants mondialement connu pour ses montagnes et ses riches habitants. Marcus, par exemple, est propriétaire d'un magasin de décoration d'intérieur. Il connaît et défend la réputation de Saint-Moritz.
Il faut avoir cette image chic. Beaucoup de voitures, très chic, c'est clair. Après, on a 5, 6, 7 hôtels à 5 étoiles. Je connais Monaco pas très bien, mais c'est vraiment comme ça. Seul qu'à Monaco, on ne pouvait pas skier.
Et l'histoire de ce Monaco des neiges a débuté en 1864, Franck, car c'est à Saint-Moritz que les sports d'hiver sont nés il y a 153 ans.
La légende, en fait, veut qu'à la fin de l'été 1864, Johannes Badrout, le propriétaire de Langadiner Kulm, ait fait un pari avec des touristes anglais, leur promettant un hiver en bras de chemise sur la terrasse de son hôtel. Pour finir de les convaincre, il s'engagea à rembourser leur séjour si le soleil n'était pas au rendez-vous. Les Anglais sont venus, le soleil aussi. La grande aventure de Saint-Moritz, l'une des stations les plus chics du monde, pouvait commencer entre descente à ski, bobsleigh, course de chevaux sur le lac gelé et match de polo toujours sur la glace du lac. Le Saint-Moritz d'aujourd'hui n'a pas vraiment beaucoup changé. Il y a toujours plus de Rolls que de deux chevaux, mais le village a grandi. Et Andrea, qui gère un magasin de jouets, affirme qu'on peut vivre à Saint-Moritz sans être milliardaire, à certaines conditions, c'est ce qu'il a expliqué à Richard Vivion.
Saint-Moritz, c'est cher si vous sortez tous les soirs, si vous faites la fête tous les soirs. Moi, j'aime vraiment beaucoup Saint-Moritz. Et puis, les clients sont de bons clients, ça ne les dérange pas de dépenser de l'argent, beaucoup d'argent.
Alors voilà Marco maintenant, lui est semble-t-il beaucoup moins enthousiaste qu'Andrea, il a 20 ans, il est étudiant, il est originaire de Saint-Moritz et il connaît l'envers du décor.
Ici, il y a de l'argent, mais pas tant que ça. Le seul espoir, c'est le tourisme. Parce que sans le tourisme, il n'y aurait plus rien. Absolument rien. La commune a de l'argent, mais si vous ne venez pas d'une grande famille qui fait des affaires, c'est dur de vivre à Saint-Maurice. Parce qu'ici, tout est très cher. Moi, je sors peut-être une fois par mois, histoire de passer une bonne soirée, mais après, mon compte en banque me fait comprendre que c'est vraiment fini. J'aimerais sortir plus, mais j'ai pas l'argent pour ça.
L'argent, on y revient toujours, et ici, même ceux qui n'en ont pas en parlent beaucoup.
Mon prénom, c'est Brigitte. Je viens de Zurich. Je viens régulièrement ici en hiver. Par exemple, j'aime aller de temps en temps au café Hanselmann, c'est un nom connu. Et c'est comme dans un théâtre. On regarde les gens, on s'amuse bien, on boit le chocolat très cher. Et puis c'est bien, c'est super pour tout le monde.
Les très riches et les autres se côtoient, Saint-Moritz, ils ne vivent pas ensemble. Certains sont acteurs, d'autres spectateurs. Mais tout le monde peut admirer le paysage. C'est gratuit et c'est vraiment très joli, Olivier.
La belle histoire du jour est le conseil week-end à Saint-Moritz. Vous était proposé par Franck Ballanger.
Et le conseil gastronomique, Olivier, avec cette petite gourmandise radiophonique pour conclure.
Un outil qui va sûrement vous intéresser, vous et bien sûr les auditeurs, Nicolas. Le site Radio Garden, Radio Garden, nous emmène dans un tour du monde des radios locales. Je m'explique. Sur votre écran, une map monde en 3D que vous faites tourner à l'aide de votre souris et dès qu'un pays vous intéresse, vous cliquez sur l'un des points représentant les stations qui émettent dans la région et là, miracle, vous écoutez le programme diffusé. On peut par exemple vérifier que l'on parle beaucoup en ce moment du gouvernement roumain sur Radio Herald à Bucarest.
Iată.
Aveți dreptate, dar eu cred că PSD-ul trebuie să guverneze și să ne demonstreze la toți minunatul program de guvernare.
Alors, c'est peut-être pas très clair, mais cette dame parle bien, je vous l'assure, du gouvernement. Vous pouvez aussi zapper en quelques secondes du débat du jour sur Radio Demsang à Hanoï au programme musical de Radio Scheger à Addis Abeba.
من فسن لمد بسیت فترچو موسیقی نوچولو اندیت کرمچو.
Et l'on peut poursuivre avec, on imagine, l'équivalent du jeu des 1000 euros sur Comédie Radio à Toula, en Russie. Et enfin, découvrir le tube qui passe en boucle sur Radio Groenland.
Før du tog dine ting og sagde farvel. Jeg var alene, for jeg mødte dig. Men jeg kan ikke huske, hvordan man gør.
C'est absolument fascinant, je vous l'assure, Nicolas. Presque magique. Alors, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Il y a bien sûr quelques petits bugs, mais le dépaysement est total.
Olivier Poujade, merci. Direction le théâtre, mes petits lapins.
Vous étiez invité ?
Ah oui.
Un jour dans le monde.
C'est joli ici, j'aime beaucoup la décoration.
Alors on s'assied tranquillement et on apprécie le suspense.
Sur France Inter.
Lapin blanc, lapin rouge, c'est le titre d'un spectacle qui est joué une fois par mois au Nouveau Théâtre de Nice avec à chaque fois un acteur différent, un spectacle particulier car l'acteur découvre le soir même le texte qu'il doit interpréter. Stéphane Capron, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Ce texte, Stéphane, tout le monde se l'arrache dans le monde, il a été écrit par un auteur iranien et traduit en 20 langues.
Alors cet auteur, il s'appelle Nassim Soleiman. Pour c'est un objecteur de conscience, il a refusé de faire son service militaire, du coup on lui a confisqué son passeport, il ne doit pas quitter l'Iran. Alors, il a écrit ce texte pour qu'il voyage à sa place, avec la consigne qu'il soit lu à chaque fois par un acteur différent. Et de ce texte, en fait, on ne sait pas grand-chose et je ne peux pas vous en dire grand-chose car il n'existe pas d'enregistrement. Je peux juste vous faire écouter cette bande-annonce du théâtre Espace Libre de Montréal, qui a été le premier théâtre à présenter la pièce en langue française.
Répondez-moi haut et fort, mon cher public. Est-ce qu'on fait l'expérience ?
Oui, oui, oui. Oui.
Soir, bienvenue à Lapin Blanc, Lapin Rouge de Nassim Soleiman.
L'actrice de ce soir n'a jamais lu le texte.
Des fois, je me dis que je suis exactement en train de faire ce que mon oncle faisait à ses lapins. Et il pratiquait des méthodes de dressage très particulières.
Voilà, on en restera là. Les comédiens qui le jouent en France, ce sont de très très grands comédiens. Le premier qui s'est livré à cette expérience à Nice, c'est Charles Berling. Et visiblement pour lui, ça a été une expérience.
La demande est tout à fait particulière puisque Irina Brook, la directrice du Théâtre National de Nice, m'appelle pour jouer la pièce d'un Iranien qui est joué dans le monde entier. Et la seule chose que tu dois savoir, c'est que tu ne sauras rien avant de rentrer sur scène. Bon, alors c'est quand même très particulier. Une semaine avant, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter. Je lui dis, Irina, t'es sûre que c'est une bonne idée? Parce que, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Moi, je... Parce que deux jours avant, on reçoit quelques instructions. Voilà, quand dans mon texte, il y aura des italiques, des machins. Préparez-vous à imiter une autruche ou des choses. Enfin, je dois pas le dire parce que... Mais des petites choses comme ça, moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, et Irina me dit, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et au fond, il y a quelque chose de magique qui se passe parce qu'il y a cet auteur iranien qui va, à travers vous, eh bien, s'exprimer en France. C'est un mélange entre l'improvisation. Donc, moi, j'ai retrouvé des réflexes que j'improvise. En général, j'étais pas dans des pièces où j'improvisais beaucoup, mais j'ai déjà fait ça et j'aime beaucoup faire ça. Donc, il y a un mélange d'improvisation et de lecture.
Alors, Charles Berling a remis les éléments dans une enveloppe Kraft et l'enveloppe va être donnée ce week-end à Jacques Weber. C'est Jacques Weber, le prochain, qui va jouer samedi soir ce texte à Nice. Bah, lui aussi, il se prépare.
Ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est qu'on peut être sûr qu'Irina et son équipe ont choisi des textes qui sont signifiants, j'aime pas le mot, mais enfin qui veulent dire quelque chose, qui ont une portée, qui sont un appel à l'interrogation sur le monde, sur la liberté, sur tout ça.
Cet auteur, lui, il dit, le théâtre ou l'art, ça sert à analyser le monde. Et lui, il le dit, ça, vu de sa prison, parce qu'il peut pas sortir de son pays.
Le théâtre est le miroir poétique, imaginé, recomposé, restructuré de son temps, de notre histoire, qu'elle soit projetée, passée ou présente. Et c'est vrai qu'elle en est le grand témoin, et elle en est le passeur quant à la réflexion nécessaire et la distance nécessaire qu'on doit avoir là-dessus. Mais c'est vrai que pour les gens qui subissent de plein fouet et en direct l'oppression, le manque de liberté, etc., ils idéalisent avec justesse et raison. Ils savent mieux que personne quel est le prix sacré de la parole, du verbe et du théâtre.
Voilà, ça a l'air fantastique, ouais, et ça
à découvrir.
Lapin blanc, lapin rouge, expérience unique donc de théâtre. Samedi soir au Nouveau Théâtre de Nice avec Jacques Weber. Puis le 14 mars, le pauvre, ce sera au tour de Lambert Wilson de s'y coller. Merci Stéphane Capron, Johnny Gotta Boom Boom et puis Anthony Bélanger, mon petit lapin adoré. Mais sur Inter, Johnny Got a Boom Boom, 18h55.
France Inter. de 18-20, un jour dans le monde.
L'heure de l'édito d'Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Direction la Chine, Anthony, où l'on vient d'inaugurer un parc d'attractions un peu particulier.
Un parc à thème dont le thème est le christianisme. Non, son nom n'a l'air de rien puisqu'il s'appelle le parc écologique de Changsha, mais il abrite tout de même un énorme temple protestant de 80 mètres de haut, un temple qui évoque l'Arche de Noé, hein, puisqu'il est posé sur un lac artificiel. On y trouve aussi un centre d'études bibliques, et le tout dans un parc majestueux de 15 hectares. Il s'agit, c'est simple, du plus vaste complexe chrétien du sud de la Chine. Ce parc correspond d'ailleurs à un certain réalisme de la part des autorités chinoises, qui l'ont autorisé d'ailleurs. Hein. Entre 2007 et 2012, un rapport officiel estime que 2 400 000 Chinois se sont convertis au protestantisme. Et pour faire face, d'ailleurs, 5 195 temples et églises ont été construites ou rénovées durant la même période. Il n'est pas donc incohérent de la part de l'État chinois bien d'accompagner ce mouvement en laissant se bâtir des lieux de prière, même spectaculaires. Alors certes, l'État chinois est officiellement laïque, hein, mais le christianisme fait partie des 5 religions, certes très surveillées, mais reconnues par la constitution chinoise, d'où l'accord de la province du Hunan, où se situe ce complexe. Et puis enfin, ça attire les touristes.
Et alors, quel est le problème ?
Eh bien, il y en a deux. Oui, avec moi, il y a toujours des problèmes. Oui. Il y en a deux, pour tout vous dire. Premier problème, d'un côté, la Chine officielle laisse prospérer les différentes églises protestantes, y compris les conversions, vous l'avez compris, alors que de l'autre, elle surveille de très près l'église catholique, voire mène des campagnes de répression. Vous avez certainement entendu parler de ces églises catholiques dont les croix ont été détruites et parfois remplacées par des étoiles rouges. Vous savez qu'il y a aussi en Chine une double hiérarchie catholique, une officielle et une Vatican, parce qu'en fait, depuis toujours, Pékin supporte mal que les catholiques chinois aient un étranger, donc le pape, du Vatican, donc pour guide spirituel. Le problème ne se pose pas pour les protestants, certes très prosélytes, mais sans hiérarchie étrangère et plutôt accommodant avec le régime.
Et donc le régime chinois joue la concurrence entre chrétiens.
Divisé pour mieux régner, ouais. Et surtout montrer à ses fichus catholiques ce qu'ils pourraient obtenir en étant plus conciliants, Mais passons au deuxième problème maintenant, beaucoup plus grave. Il se trouve que ce parc d'attractions chrétien est situé, on l'a dit, à Changsha. Or, Changsha n'est pas n'importe quelle ville en Chine. Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire de Chine, figure tutélaire du régime, est né à deux pas de là en 1893. Pire encore, il a vécu adolescent à Changsha et y a même ouvert une librairie. Changsha est donc le lieu de la formation du jeune Mao, l'endroit où il s'est converti au communisme. En clair, Changsha est un lieu sacré pour les néo-maoïstes chinois, une étape cruciale dans la vie et l'œuvre du grand trimonier. Inutile donc de préciser qu'édifier un temple chrétien, même en forme d'Arche de Noé, en terre maoïste, n'est pas passé inaperçu des turiféraires du grand homme. Ils se sont répandus dans la presse locale pour dénoncer, je cite, « cette invasion culturelle impérialiste » ou encore, et je cite toujours, « une structure inutile et inappropriée qui au mieux blesse la culture locale » plutôt bouddhiste, et au pire, est une menace pour la sécurité. Écoutez bien, la sécurité spirituelle de la Chine. En clair, le christianisme menace les racines spirituelles de la Chine, et ce, au cœur même de l'équivalent maoïste de la Mecque, la ville de Changsha. Et je vous laisse juste apprécier, à 8000 km de distance, l'ironie mordante de l'argumentation. Chez nous, ce sont les racines chrétiennes de la France et de l'Europe qui seraient menacées par un islam étranger et conquérant. Et à Pékin, c'est le christianisme qui est étranger et conquérant, je cite toujours, et qui menace les racines maoïstes de la Chine. Autre lieu, autre mœurs, mais même bêtise.
Anthony Bélanger, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20, consacré ce soir à l'opération Moi Président que vous propose Inter et l'Obs. L'idée est simple, il s'agit de donner la parole à des citoyens afin qu'ils proposent des réformes utiles au pays. Les domaines vont de l'environnement au travail, de l'éducation au numérique, de la culture au réveil de la démocratie. Aux candidats de se saisir ensuite de ces propositions, des apporteurs de projets. Voilà, c'est de la démocratie participative. Collaborative, je vous invite à nourrir de vos questions notre débat 01 45 24 7000 franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson.